Est-ce que tu pourrais nous dire, tu nous as un petit peu abordé la question sur la pérennité de ce projet après ton départ du poste de coordonnateur à Saint-Priest. Donc malgré le fait qu'il y ait un des réseaux qui ne soit plus actuellement en REP, qu'est-il devenu de ce projet initié en 2011, c'est ça ? Ou un peu avant ?
2010, le début de la réflexion, et puis... voilà, moi ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est d'une part, effectivement il y a eu des continuités et des discontinuités. C'est-à-dire qu'il y a une continuité dans le pilotage au niveau du premier degré, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'IUN est toujours là, donc ça le fait, hein, je veux dire... C'est sûr que dans des territoires où, j'en connais pas loin d'ici, où il y a eu 7 changements d'IEN en 8 ans, la continuité est plus complexe. La deuxième chose, en termes de continuité, qui me semble importante, c'est que, mais c'est pareil, c'est parce que l'inspecteur s'est un peu battu pour ça. Quand je suis venu ici, et qu'il y a eu un nouveau coordonnateur qui a été recruté, l'IUN a fait des pieds et des mains auprès de la DSDEN pour qu'on ait 6 demi-journées sur le mois de juin où le collègue qui prenait la suite a pu être déchargé de sa classe pour venir travailler avec moi. Voilà. Et réfléchir aussi sur là où on travaille, sur forcément il y a des moments de rupture, il y a des personnes qui changent, mais qu'est-ce qu'on aménage? Et comment on fait en sorte qu'il y ait du tuyage et qu'il y ait de l'histoire qui se transmette, ça me semble être un élément essentiel. Voilà. Après, les histoires font cette réflexion-là, je pense qu'elle a marqué pas mal de collègues qui sont encore présents. Les chartes et la réflexion autour des devoirs dans la plupart des groupes scolaires de Saint-Priest, elle continue. Et je sais qu'il y a aussi des outils qui ont été faits pour dialoguer avec les parents autour de ça. Qu'est-ce qu'il en est du travail partenarial aussi? Je sais que la coordination des coordonnateurs, elle a continué pas mal de temps. Je sais pas ce qu'il en est cette année, mais jusqu'à l'année dernière, elle était toujours en place.
Tu me disais qu'il y a aussi il y a aussi des enseignants qui avaient réfléchi à comment est-ce qu'on aménage les 7 dernières minutes de cours, justement pour engager. Alors ça avait été élaboré peut-être aussi dans le cadre de la conscience des apprentissages, mais également dans le cadre de la réflexion de comment on demande les devoirs. Et il y a des enseignants qui continuent à pratiquer une façon d'enseigner un peu spécifique sur ces 7 dernières minutes de classe.
Oui, j'en ai pas parlé de ça. Le stage intercollège dont je vous parlais, on a conclu le stage avec la présence des chefs d'établissement qui étaient là. Et les collègues ont proposé de se lancer là-dessus, et les principaux de collèges ont dit banco, on va proposer pendant 6 mois à tous les enseignants des 3 collèges d'arrêter chaque cours 7 minutes avant la sonnerie pour se consacrer ces 7 minutes à l'écriture des devoirs sur l'agenda et à commencer ce travail. Les collègues ont joué le jeu. On a pu faire le bilan, et alors le bilan, comme tout dispositif, il a été mitigé, c'est-à-dire qu'en fonction des disciplines, en fonction des collègues, les collègues ont dit ça n'a pas trop fonctionné, pas trop été utile. Pour moi, d'autres collègues ont trouvé ça utile. On a fait vraiment un bilan, et à quelles conditions ça pouvait fonctionner correctement. Donc des collègues ont ramené des choses concrètes de ce qu'ils avaient mis en place pour faire fonctionner ces 7 minutes. Et là, oui, effectivement, moi je sais qu'il y a des collègues de langue, notamment, c'est 5 ans après, qui continue à faire ces 7 dernières minutes de cours. Alors il faut croire, je pense que pour ces collègues-là, en langue, ça, par rapport aux spécificités des difficultés du travail personnel demandé dans ces disciplines, ces 7 dernières minutes, ils en voient vraiment l'utilité pour faire en sorte que ça continue. Vous savez, sur cette question d'expérimentation, d'innovation, ce qu'on dit souvent, c'est qu'une expérimentation, une innovation qui réussit, c'est une expérimentation qui est capable de devenir une routine. Et là, pour le coup, pour ses collègues, ça a pu devenir une routine. Mais parfois, une expérimentation, une innovation, elle est tellement coûteuse qu'au bout d'un moment, on l'abandonne, mais c'est pas grave, on essaye autre chose. Vous voyez, c'est... Il y a juste un historien d'éducation qui disait « La dernière innovation qui a réussi en éducation, c'est l'ardoise ».
Effectivement, cette expérience, on voit bien qu'elle est liée fondamentalement à la problématique de comment aider les élèves dans leur travail personnel. Est-ce que concrètement, tu as pu observer chez les élèves, enfin, ou comment est-ce que vous vous y êtes pris finalement, peut-être pour évaluer auprès des élèves ce travail ? C'est-à-dire que, est-ce que les élèves aussi ont vu du changement ?
Alors, ça, c'est souvent la question qu'on pose par rapport à, voilà, à un dispositif ou à quelque chose qui se met en place. Alors, concrètement, des observations, que j'ai pu faire dans les classes au moment des journées de recueil de données, quand vous voyez pendant un travail de groupe en histoire dans une classe de CM2, un élève qui, de manière complètement spontanée et autonome, parce qu'il a capté quelque chose qu'il a trouvé super intéressant dans ce qu'ils ont découvert dans les documents de la séance d'histoire, se lève et va prendre son cahier des apprentissages et écrire ce qu'il a retenu d'intéressant. Ben ouais, c'est des signes comme ça. Quand on parle d'autonomie de l'apprentissage, quand on voit des choses comme ça dans les classes, pour moi, c'est un signe. Parce qu'on oublie un peu trop rapidement que les devoirs, c'est pas simplement, vous savez, les devoirs au sens, c'est ton devoir, c'est ton obligation. Les devoirs, c'est aussi comment petit à petit on construit avec les élèves. Les devoirs, c'est ce qu'on se doit à soi-même. Hein, dans le travail personnel, il y a aussi toute la question de comment je personnellement je m'implique dans l'apprentissage. Comment je m'approprie, comment je devenir autonome, c'est ça. Hein, c'est à un moment donné être capable de faire des choix, de prendre des décisions autonomes qui vont servir mon apprentissage. Et c'est quelque chose qu'on a du mal parfois à envisager dans le système scolaire où on est quand même assez directif dans la manière dont on cadre le travail. Et voilà, on a eu des collègues, par exemple, vous le verrez peut-être dans les fiches proposées par les collègues de les pistes concrètes pour le primaire. On a par exemple une collègue qui a expérimenté une heure blanche. C'est-à-dire que dans sa semaine, chaque semaine, il y avait une heure où elle ne donnait rien à faire aux élèves. Et c'est des élèves qui choisissaient ce qu'ils voulaient faire. Donc, ben, moi, j'ai été pendant les journées recueil de données observer ce qui se passait, et on voyait des élèves qui allaient chercher les fiches d'entraînement sur le calcul, des élèves qui allaient reprendre le livre de littérature de jeunesse, l'album qu'ils avaient envie de relire parce que ça leur avait plu. Vous voyez, cette question du choix, à un moment donné, qu'on donne aux élèves du travail qu'ils font, c'est une question qu'on se pose rarement. Mais si on veut que les élèves deviennent autonomes et soient motivés dans leurs apprentissages et qu'ils le restent, et on voit bien la problématique après au collège sur le motiver les élèves, il y a peut-être des choses à imaginer de ce côté-là.
Juste une autre question par rapport justement à la prise de conscience et à l'autonomie des élèves. Est-ce que vous avez, par exemple, dans vos secteurs, dans cette expérimentation, des enseignants qui ont travaillé sur, par exemple, l'évaluation par contrat participatif, la préparation des devoirs en classe ou des choses comme ça ? Est-ce que ça a été une des pistes de réflexion et qu'est-ce que ça a donné finalement ?
Alors, pareil, l'intérêt de ce type de dispositif où on engage les collègues à essayer quelque chose qu'ils ont envie d'essayer. On a eu par exemple un prof de français de collège qui a mis en place avec un groupe d'élèves en difficulté. Il travaillait avec eux avant un devoir sur un texte autour de ce texte. Et puis dans le contrôle qui était donné, il y avait une question qui avait été élaborée par ces élèves-là. Voilà, un exemple de ce qui a pu être travaillé. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ces allers-retours entre observer un collègue qui fait quelque chose et les temps de formation, on a observé ces temps-là, et puis on les analysait avec le collègue, et après c'est le collègue qui présentait ce qu'il faisait après dans les temps collectifs. Vous voyez, ces espèces d'allers-retours permanents entre les espaces de formation, les espaces de réunion, de discussion, et puis ce qui se passe dans la classe est installé sur la durée. Ça, c'est.
Et peut-être pour compléter, parce que moi, à l'époque où cette expérimentation avait lieu, j'étais formatrice au Centre Michel Delay, donc du coup on s'est rencontrés puisque j'ai participé un petit peu à ça. Avec l'équipe de maths du collège, on avait notamment réfléchi à comment est-ce qu'on prépare les contrôles et du coup qu'est-ce qu'on donne en devoir. Alors, il y avait un peu cette idée c'était l'époque de la constante macabre. et de dire et ben finalement si on leur dit que on leur donne une série d'exercices et puis on leur donne à préparer le contrôle, ça va mieux se passer. Puis il y avait des profs qui avaient expérimenté ça et puis ça se passait pas mieux. Alors on a été allé un petit peu déplier cette affaire-là, puis on se rendait compte que le prof en fait, il disait bon bah les exercices je les prendrai entre celui de la page 28 et celui de la page 34 et j'en prendrai 5 là-dedans. Donc même s'il avait proposé une correction de tous les exercices, hein, parce que derrière il y avait une intention, ça se passait pas. Donc on avait réfléchi à comment on pouvait aménager ça. Et dans le cadre des devoirs, une chose qu'on avait proposée tous ensemble, c'était de dire en fait proposer aux élèves de rentrer le soir et d'aller chercher dans le livre un ou deux exercices qui leur semblaient des exercices intéressants par rapport à ce qu'on avait appris dans le cadre de la leçon et qui pourraient être donné être l'objet de l'évaluation, c'est-à-dire être dans le contrôle. Et donc revenir avec un argumentaire. Donc voilà, moi je propose tel exercice et en fait cet exercice me semble important, soit parce qu'on l'a fait déjà, on a fait trois fois l'exercice équivalent, soit parce que ça correspond à telle chose. Donc ils avaient expérimenté ça dans le cadre du groupe des profs du collège. Alors après, on n'a pas travaillé longtemps parce qu'on était en fin d'année. Donc, quel retour il y a eu là-dessus, je peux pas le dire. Mais voilà, ça fait partie des choses.
Je peux donner. Enfin, dans les choses aussi. Alors là, on évoque pas mal de choses qui ont pas mal fonctionné, mais il faut pas vous dire que ça a été toujours tout rose. Loin de là. Et notamment parfois, le prescrit vient impacter ce type de travail. Et notamment ces réflexions au collège sur l'évaluation qui avaient bien avancé et on se préparait à mettre en place une sixième sans note. Bing, l'année suivante, il y a la prescription qui arrivait du ministère de mettre en place le livret de personnel de compétences au niveau troisième. Et puis surtout avec un travail qui a été complètement du coup vidé de son sens, c'est-à-dire qu'on se préparait à commencer à travailler sur le niveau 6e, d'un coup on a la prescription de travailler sur le niveau 3e, et puis pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce livret personnel de compétences, on peut pas dire qu'en termes d'ergonomie il était très pratique, mais en gros, du coup, les formations sur l'évaluation l'année suivante, ça a été du temps énorme consacré à se dire entre collègues, à se partager qui coche quoi. Voilà, vous voyez, on a souvent tendance à croire que la question de la cohérence du pilotage sur un territoire, l'articulation entre les pilotes premier et second degré, elle est compliquée et c'est parfois peu efficient. Faudrait pas croire que, ce que je vous présente, c'était déjà installé avant les projets qu'on a mis en place. C'est-à-dire que la coopération entre les six principaux de collège et puis l'équipe de circonscription autour de ça, elle s'est vraiment construite dans ces groupes de travail. Et c'est parce qu'on installe des groupes de travail et des objets de travail aussi que la coopération entre les pilotes, elle se construit. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà.
Mais c'est clair que analyser les conditions de la réussite de ce qui s'est mis en place sur Saint-Priest, enfin Stéphane l'a dit en employant souvent le mot chance au début quand il a présenté un petit peu le contexte, moi j'aurais peut-être plus dit conditions, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un pilotage stable avec des chefs d'établissement et un IEN qui reste en poste quand même un certain nombre d'années. Il y a des priorités qui sont posées et qui sont maintenues, c'est-à-dire que derrière il y a des bras de fer qui sont engagés parce que aujourd'hui on le sait bien, si on décide pendant 3 ans qu'on va on met ça dans le projet de réseau et puis on définit des grands axes, des grandes priorités, puis là-dessus arrive la question du harcèlement et patatrac, la question du harcèlement, hop là ça devient la priorité et donc il faudrait tout chambouler. Bah là faut quand même que les pilotes ils aient les épaules larges pour dire bah non, là nous on est engagés dans quelque chose et on va quand même aller au bout. Donc ça veut pas dire qu'on va pas répondre aux prescrits, mais en tout cas la priorité qu'on a on va la maintenir et pour autant on va pas surcharger la barque parce qu'on sait qu'on risque de noyer tout le monde. Donc c'est comment on gère, quels équilibres, voilà. Donc la question de la question des pilotes, la question de la formation et la question de l'enseignement, on voit bien là comment elle s'imbrique et comment s'il y a un maillon manquant, et ben ça va poser problème quoi, ça va mettre en difficulté la réussite de ce travail engagé.
Oui, moi ce que je trouve particulièrement intéressant c'est le travail sur le temps. Et si on regarde à l'aune d'aujourd'hui, tu as parlé d'un CAREP, tu as parlé de Saint-Michel-de-Lay, aujourd'hui on s'oriente plus vers des formateurs académiques qui n'ont pas tout à fait la même place. de voir comment effectivement les formateurs académiques peuvent être quand même un appui, enfin quand même, excusez-moi les collègues formateurs académiques, mais peuvent être un appui dans cette écoute du travail de proximité et de terrain, parce qu'on n'a pas toujours dans les collègues coordonnateurs des gens qui sont potentiellement formateurs, ce qui était ton cas quand même. Voilà, ça c'était peut-être construit au fur et à mesure, même si tu n'en avais pas.
Mais surtout, enfin, voilà, mais... je me présentais jamais comme formateur.
Oui, oui, non, mais je sais bien. On mais bon, je veux dire, en même temps, voilà, il y a des outils quand même, tout ça s'invente pas. Enfin, ça se construit au fur et à mesure. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. Alors, on n'est pas là pour ça. On aura d'autres espaces de travail entre formateurs académiques. Mais, voilà, effectivement, dans la nouvelle réforme d'éducation prioritaire, quelle place ont des gens qui sont parfois intérieurs, parfois extérieurs, pour trouver cette cohérence et être la ressource, quoi, qui permet aussi de prendre un peu de distance, parce que quand on est sur le terrain, on est pris aussi, ça veut pas dire que les formateurs académiques sont pas sur le terrain, il faut que je sois prudente sur les mots, mais quand on est dans son contexte, je veux dire, on est pris dans des réseaux de pouvoir, d'existence au quotidien, qu'un formateur académique peut parfois avoir une distance, quoi, qui est,
voilà. Mais voilà, ben clairement, hein, tout le processus que je vous décris, il est d'abord le fruit, alors on a parlé d'une collaboration des pilotes, mais qui a été outillé par vraiment un travail étroit avec les formateurs qui nous ont soutenus du centre Michel Delay. Voilà, et clairement, il y a eu beaucoup de réunions pour construire ces formations où les pilotes étaient présents avec le formateur académique, et on a réfléchi d'abord sur le fond, hein, et pas simplement uniquement en termes de grille de stage et de où on a réfléchi sur le fond avant de construire les grilles de formation et l'articulation du plan de formation. Peut-être juste parce que c'est quelque chose que je vous parlais tout à l'heure de la coordination des coordonnateurs, mais pour ça me semble être peut-être un outil à qui est utile pour pouvoir réfléchir aux priorités. Ça, c'est une grille qu'on a construite dans notre coordination de coordonnateurs. Essayer d'arriver à se poser pour regarder sur un territoire, sur les différentes tranches d'âge, quels sont, et c'est ce qu'on a mis en jaune, là, les petits cercles avec en jaune, là, quels sont les problèmes qu'on rencontre? Quels sont les problèmes et pourquoi on a décliné ça, parce que ça nous semble important à chaque fois pour chaque tranche d'âge. Comment il y a besoin de soutenir les enfants, comment il y a besoin de soutenir les parents, comment il y a besoin de soutenir les professionnels. Vous voyez, ces trois dimensions nous semblaient importantes. Et comment, voilà, pour chaque tranche d'âge, on réfléchit aux problèmes qui peuvent être posés aux parents, aux problèmes qui peuvent être posés aux enfants, aux problèmes qui peuvent être posés aux professionnels. Et puis, qu'est-ce qui existe déjà pour les soutenir par rapport à tel ou tel problème, et qu'est-ce qui manque? Et puis dans ce qui existe, c'est chouette, la politique de la ville a financé un chouette lieu passerelle dans une école maternelle, où il y a un chouette dispositif d'accompagnement des devoirs dans telle école. C'est expérimental, c'est financé par la politique de la ville. Comment on articule ça avec le droit commun pour tous? Et comment on fait en sorte que ces choses qu'on met en place, elles accompagnent aussi la réflexion de l'ordinaire du travail?
Alors, oui, très intéressant, bien sûr, et peut-être plus facile quand plus facile et plus difficile, peut-être, je m'exprime, quand c'est un gros réseau. Je suis sur un tout petit réseau, il n'y a qu'un collège et deux écoles sur un réseau d'éducation prioritaire, donc sur la région lyonnaise. Et le travail est à la fois plus simple parce que nous sommes moins d'acteurs, mais plus compliqué quand même parce que il y a un gros turnover des enseignants, notamment sur mon collège, avec 50% de personnel qui change. Et mettre en place un travail qui va perdurer, c'est compliqué. En tous les cas, la charte, en effet, je suis tout à fait pour des choses écrites qui resteraient, en les réadaptant, en retravaillant. Voilà. Ce qui est compliqué aussi, c'est de dégager du temps pour toutes ces réunions. On est en train d'écrire le contrat de réseau, c'est compliqué. Et je voulais souligner l'appui quand même de nos autorités sur ce travail-là et le regard des IPR, qui est de l'IEN, mais des IPR référents, qui est un regard extrêmement intéressant, et l'appui de notre hiérarchie sur la mise en place de ce dispositif. Voilà. En tous les cas, de l'AREP+.
Voilà. C'est sûr que... Sur les REP+, et sur les REP, le moment de la réflexion autour du projet de réseau, clairement, c'est vraiment un levier pour moi puissant de construction de collectifs et de priorités collectives. Après, c'est la question. On parle, nous, par rapport à nos ressources, mais c'est peut-être quelque chose qui peut être réfléchi aussi par rapport au projet de réseau, c'est-à-dire comment on fait le suivi dans la durée des projets de réseau, comment on fait ce que notre collègue Simon Flandin appelait la conception continuée dans l'usage. C'est-à-dire que le projet de réseau, c'est pas juste quelque chose auquel on réfléchit au début et que sur lequel on revient pas et qu'on retouche pas, mais comment on le remet en chantier, on réfléchit en avançant. Voilà, parce que bon, vous avez tous connu ce type de choses par rapport à tel ou tel type de projet, mais je vous en ai pas parlé, mais à Saint-Priest, depuis 2001, il y avait un contrat éducatif local, enfin même un projet éducatif local. Moi, je suis arrivé comme coordonnateur en 2007. Il a fallu que j'aille fouiller avec la collègue Cordeau CEL pour qu'on retrouve ce projet éducatif local dans un tiroir où il n'y avait plus qu'une version papier et où plus personne n'en avait connaissance, ne l'était approprié. Et le contrat éducatif local, c'était une réunion par an où voilà tous les partenaires se réunissaient pour valider des actions, enfin pour financer telle ou telle action d'accompagnement à la scolarité. Mais là, l'esprit du projet avait complètement disparu. Hein. Donc, il suffit pas d'un document écrit pour qu'un projet vive, quoi. Voilà.
En fait, on vous demande de parler dans le micro, c'est aussi pour qu'on s'entende, mais c'est aussi parce que c'est enregistré, en fait.
Dans la charte là qui est proposée du CP jusqu'à la fin de la troisième, il y a un horaire de devoir qui est donné. Comment ça a été discuté entre les collègues de collège pour se mettre d'accord de dire que le travail du soir d'un élève devait être d'une heure, sachant qu'ils étaient plusieurs acteurs dans ces devoirs?
Le temps, il a été donné à titre indicatif. Et c'est ça qui me semble intéressant. Et du coup, ça a été du coup l'occasion de la discussion entre les collègues de chaque niveau sur qu'est-ce qui semble raisonnable de donner à tel ou tel niveau. Voilà. On a eu tout un temps de travail sur cette question du poids des devoirs et comment on peut s'organiser pour avoir une évaluation un petit peu du poids des devoirs qu'on donne chaque jour et où on reste vigilant à regarder aussi ce que les collègues ont déjà donné.
Voilà. Est-ce que un outil commun avait été discuté, l'ENT ou voilà, est-ce que ça avait été au centre des discussions? Ça existe.
Alors, il me semble bien que c'était déjà Pronote à l'époque. Et voilà, et ce qui était assez intéressant, on a pu utiliser aussi Pronote pour faire des extractions par jour. Et ça a été aussi un des outils qu'on a utilisé pendant le stage intercollège. On a fait des extractions sur différentes classes, différents niveaux de classe dans les collèges, sur ce qui était donné aux élèves. Et ce qui a fait prendre conscience, voilà, aussi aux collègues que, parfois sur certains jours, il y avait des choses qui étaient à la limite du faisable, quoi.
Nous, ça, c'est quelque chose qu'on avait travaillé également. Alors, c'était au début de ma carrière en collège, donc on n'avait pas encore Pronote et ce genre de choses. Et en fait, on avait formé les délégués à ça. C'est-à-dire que les délégués, finalement, c'était eux qui, à un moment donné, sonnaient l'alerte et venaient voir le prof en disant « Là, ce que vous êtes en train de nous donner par rapport à ce qu'on a déjà à faire, c'est pas possible, on va pas y arriver. » Alors, c'était pas très satisfaisant non plus parce que finalement il y avait les premiers profs qui étaient passés avant qui chargeaient la barque et puis après les autres ils pouvaient plus donner de travail. Mais bon, du coup après c'était affaire de négociation entre enseignants en disant hey, mon gars, t'es sympa mais du jour pour le lendemain tu donnes pas trois quarts d'heure de travail parce que sinon nous on a plus de place quoi finalement dans cette histoire là. Mais en fait voilà, on avait formé les délégués à ça et en plus ça présentait un autre intérêt, c'est que on a la place des délégués dans les conseils de classe, notamment je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui est encore extrêmement problématique. Il y a des tas d'établissements où le rôle du délégué c'est d'emmener les gamins à l'infirmerie ou d'aller faire une photocopie quand il en manque. Voilà, et là pour le coup les délégués ils avaient réellement un rôle quoi. Voilà. Enfin, on avait essayé aussi, c'était aussi ça un peu un des enjeux de cette affaire-là.
Oui, c'est un petit peu plus large comme question. Au regard de ce qu'on a entendu depuis trois jours et de travail qu'on a fait dans le groupe, c'est vrai qu'on en est arrivé, nous, à se dire que cette question des devoirs, elle est quand même très, très questionnante sur des enjeux dans la classe. Est-ce que tu as eu assez de recul pour voir si, même en le prenant comme vous l'avez pris, c'est-à-dire beaucoup sur à la fois sur des contenus, mais aussi sur du structurel, dire combien de temps on donne, se coordonner, enfin bon, des choses qui remettent pas en cause comme ça, a priori, comme ça, si je regardais ça de l'extérieur. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'à un moment donné, ça a permis aux collègues de modifier les pratiques dans la classe?
Ben, clairement, et j'en ai parlé, hein, de plein de collègues qui ont expérimenté des choses et qui ont fonctionné. Et peut-être un élément, la question des savoirs transparents, puis la question aussi, pour nous, c'était aussi en lien avec toute la réflexion qu'on avait conduite sur la conscience des apprentissages. Vous verrez dans l'épice concrète primaire, il y a le bilan de fin de séance, le bilan de fin de journée, le bilan de fin de semaine. C'est-à-dire, comment on met des choses en place pour aider à construire avec les élèves, et c'est ceux qui réfléchissent sur l'apprentissage des leçons, pour moi, c'est vraiment centré là-dessus, c'est-à-dire comment on se remémore ce qu'on a fait et on remet en avant les savoirs qu'on a construits au regard de ce qu'on a fait pendant telle ou telle séance. Voilà. Et une des pistes de travail, voilà, les collègues ont essayé de mettre en place ces bilans, par exemple, de fin de séance ou de fin de journée, et ils sont aperçus que c'était au départ très creux. C'est-à-dire que les élèves disaient, bah oui, on a fait des additions, la question de qu'est-ce qu'on a construit en termes d'apprentissage pendant la séance, c'était un peu vide du côté de ce que disaient les élèves. On a bien travaillé. Enfin, vous voyez, toutes les choses un peu vides et creuses que les élèves disent quand on leur demande de quoi ils se rappellent. Et c'est du coup, pour faire évoluer ces temps-là, on a creusé la piste de quelle médiation on met en place pour se remémorer ce qu'on a fait. Et ces médiations qui sont pas forcément les mêmes en fonction des niveaux. Par exemple, des collègues de cycle 2, pour pouvoir outiller les élèves sur ces temps de bilan, prenaient des photos des tâches et de ce qui se faisait pendant la séance. Vous voyez, et à d'autres niveaux, c'est quelle trace écrite, quelle note on prend. Voyons, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas, mais on se dit, voilà, naturellement, les élèves, quand ils vont arriver en seconde, ils vont savoir prendre des notes en cours. Mais qu'est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on peut construire depuis l'école primaire sur apprendre aux élèves à prendre des traces de leur activité pendant leur activité pour pouvoir les remobiliser à un autre moment? Et là, il y a plein de choses à imaginer et à travailler autour de ça.
Il y a Jacques Bernardin, notamment, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a plein de pistes.
Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est le déplacement qui s'est opéré entre les devoirs et on en arrive maintenant à la régulation des apprentissages. Et ça me semble ça particulièrement fondamental, quoi, parce que du coup, on n'est plus à penser simplement en aval, mais on est obligé de penser en amont et de mettre tout ça en interaction, et ça me paraît extrêmement fondamental.
Alors, on va peut-être conclure ce temps-là, mais pour moi, ça a été aussi l'occasion de remettre en scène avec vous l'idée que cette question des devoirs à la maison du travail personnel, c'est un gros morceau. En fait, on a l'impression que voilà, on va choisir une thématique, les devoirs à la maison, on va avoir un objet de travail. Ben, vous avez bien vu pendant ces trois jours que c'est un gros morceau qu'il faut bien voir, j'allais dire presque de manière systémique. Mais il y a différentes dimensions que forcément il faut qu'on réfléchisse à articuler. Il y a la dimension, effectivement, la manière dont on va travailler en classe va faire en sorte que ce qu'on demande aux élèves après la classe va être efficace ou pas, pour tous. Là, c'est la première dimension, qui est presque, je veux dire, une dimension pédagogique et didactique. Il y a une deuxième dimension, qui est le problème de ce qu'on envoie à l'extérieur, comme dirait Marc Prouchet, notre formateur CAREP de l'époque, comment on les met sur orbite. Hein, c'est la question de l'écriture des devoirs, à quel moment, quand, de quelle manière, et qui est aussi vraiment un problème professionnel. Il y a la question des parents, quelle place on leur donne, comment on les associe à la réflexion aussi là-dessus, comment on n'en fait pas juste des acteurs passifs, et comment on entend leur besoin pour eux de voir et de comprendre ce qui se passe à l'école. Et puis, alors là, c'est peut-être d'autres pistes de réflexion, mais comment on rend visible et lisible l'école d'une autre manière que par les devoirs. Donc il y a cette dimension-là, mais en même temps, qu'on peut pas complètement évacuer, comme on l'a vu hier avec ce que vous proposez Marie-Odile. Enfin voilà, si on supprime les devoirs ou qu'on fait autrement et qu'on communique pas avec les familles, voyez bien les problèmes auxquels on va se heurter. Hein. Voilà. Il y a aussi toute la dimension qui n'est pas évacuée de l'accompagnement à la scolarité et du travail partenarial. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui font de l'aide aux devoirs dans différents lieux. Quels outils ont créé de communication, de réflexion, de lien entre le commanditaire qui est l'enseignant et puis ses accompagnants sur ce qui est fait, pourquoi c'est fait, comment on peut soutenir vraiment les élèves sans trop faire à leur place. Enfin, il y a plein de choses à travailler sur cette dimension de l'accompagnement. Vous voyez, c'est une espèce de constellation, cette question des devoirs à la maison du travail personnel. Alors, oui, il faut rentrer par un bout. Et c'est pour ça qu'on vous a engagé dans le travail de groupe, à commencer par un objet le plus cerné, le plus précis possible, mais en se disant pas que c'est pas parce qu'on va rentrer par un bout dans cette galaxie, dans ce truc-là, que les autres dimensions, il faut qu'on les évacue complètement et qu'il n'y aura pas à les travailler.